Bintiminoudi, l'émission politique d'RCFM, Patrick Vinciguerre.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Bintiminoudi, avec ce soir comme invité Jérôme Negroni, jeune maire de Saint-Laurent dans le Brosio. Vous avez tout juste 30 ans, membre également de la Chambre des territoires. Jérôme Negroni, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à toutes.
Dans ce Bintiminoudi, parole à un maire de l'intérieur du monde rural. Quels sont ses problèmes, ses espérances? 30 ans que l'on parle du développement de l'intérieur. Est-ce un vœu pieux ou une réelle volonté? Jérôme Negroni, vous nous donnerez votre sentiment. Nous parlerons aussi de l'actualité de ces dernières semaines, marquée par de nombreux actes criminels sur fond de tensions, de menaces, qui interrogent sur quelle politique touristique, quelle politique agricole voulons-nous pour la Corse? Mais avant, Jérôme Negroni, focus sur la Chambre des territoires dont vous êtes élu. À quoi sert-elle? C'est le dossier cette semaine de Bintiminoudi.
Bintiminoudi, le dossier.
Installée en avril 2018, la Chambre des territoires vient de souffler sa première bougie, une année d'existence au cours de laquelle elle a produit 32 rapports, adoptés à l'unanimité de trentaine de décisions. Pour autant, lundi à Bastia, où elle était réunie en session, l'ambiance n'était pas à la fête. Seule une quinzaine de conseillers sur 42 étaient présents. La majorité des conseillers exécutifs et représentants de l'Assemblée de Corse, membres de droit, étaient absents. Henri Franceschi, le maire d'Ucciani, le regrette.
Il y a peu de conseillers exécutifs, il y a peu de conseillers territoriaux. Pourquoi? Parce qu'ils agissent dans une autre institution que la Chambre des territoires. Donc c'est peut-être pour ça que la participation n'est pas très nombreuse. Mais vous avez pu vous en rendre compte, on a travaillé sur des dossiers importants, notamment sur les incendies, sur l'eau.
Des travaux, cela dit, qui ont eu très peu d'écho. Gilles Semeyoni, qui préside cette chambre, est conscient de ses difficultés à se faire une place dans le paysage politique insulaire. Il a d'ailleurs mis en place un groupe de travail pour plancher sur son évolution statutaire qui passe par une recomposition. Henri Franceschi fait partie de ce groupe de travail.
D'abord, il faut que tous les présidents de PCI de Corse y soit présent et il faut augmenter le nombre de maires et notamment de maires de communes du rural, les petites communes. Il y a simplement 8 maires, c'est pas suffisant sur plus de 300. Il faudrait qu'ils soient beaucoup plus nombreux.
Également favorable à un élargissement de cette chambre, Joseline Fazi, la maire de Rennes, qui au bout d'un an fait un bilan mitigé de cette instance consultative.
Oh, vous savez, au bout d'un an, on ne peut pas faire de bilan. Je dirais que ça nous a permis de nous rencontrer, ça nous a permis d'essayer de comprendre ce qu'il faudrait faire. Déjà, la composition n'est pas bonne. Il n'y a pas assez d'élus de terrain. On ne voit pas beaucoup de maires et on ne voit pas beaucoup de présidents de PCI. Aujourd'hui, il n'y a personne parce que les gens sont ailleurs, parce que les gens travaillent. C'est pas parce qu'ils sont des mauvais élèves.
Sauf que sur les 11 maires membres de cette chambre, seuls 4 étaient présents lundi. Le problème semble en définitive moins être sa composition que son utilité.
Bintiminoudi, Patrick Vinciguerre.
Avec Jérôme Negroni, le maire de Saint-Laurent, ou commune du centre Corse d'environ 150 habitants, membre donc également de la Chambre des territoires. Jérôme Negroni, cette Chambre des territoires, elle sert vraiment à quelque chose?
Écoutez, je crois que la Chambre des territoires a été promulguée aujourd'hui depuis un an. Il est, à mon sens, un peu tôt pour faire un bilan. Mais c'est vrai, il faut le dire, qu'elle a peut-être un peu du mal à trouver son rythme de croisière. Alors pourquoi? À notre sens, la première faute, on va dire à l'État, puisqu'il faut rappeler que la Chambre des territoires a été mise en place sur ordonnance, avec une composition...
C'est sa composition qui est en question.
Sa composition, à notre sens, qui a été imposée, avec, comme le disait tout à l'heure notre collègue, beaucoup d'élus territoriaux qui traitent déjà tous ces dossiers au niveau de l'Assemblée de Corse et à qui on ne peut pas en vouloir de ne pas forcément être présent au niveau de la Chambre. Deuxième chose, on va rappeler qu'on avait organisé un voyage en mars 2018 en Occitanie, qui a une chambre de territoire qui fonctionne durablement depuis plusieurs années, qui fonctionne bien, où justement il y avait une répartition équitable dans les territoires et où, on va dire, le côté politique était mis de côté.
Comment expliquer que ceux qui se sont battus pour être élus, je pense à certains maires, n'y siègent pas? Il y avait seulement 4 maires lundi.
Bah écoutez, c'est vrai qu'il faudra peut-être leur demander...
C'est bien beau d'élargir, mais ceux qui y sont, s'ils n'y viennent pas...
Il faudra peut-être leur demander. Après, c'est vrai, On a demandé, on a ouvert une commission à ce sujet. Peut-être qu'il faudra aussi que la collectivité de Corse puisse allouer d'autres moyens, notamment financiers et, à mon sens, personnels, techniques, pour que la Chambre des territoires puisse justement aller à la rencontre des territoires et non l'inverse.
Mais pour avoir assisté à quelques sessions, on a le sentiment que ce qui est décidé, acté, pourrait l'être dans une simple commission de l'Assemblée de Corse.
De toute manière, le travail qui nous est proposé...
Ça pose le problème du contenu, là.
Sur le contenu émane à 90%, on va dire, des travaux déjà des commissions de l'Assemblée de Corse, puisque la Chambre des territoires n'a qu'un avis consultatif. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'on devrait aller sur les territoires avec du personnel technique qui irait justement à la rencontre des élus pour pouvoir traiter de nos problèmes quotidiens.
Elle a été créée, cette chambre, pour pallier la disparition des conseils départementaux lors de la création de la collectivité unique, pour maintenir ce lien de proximité avec les territoires, surtout dans le monde rural. Elle remplit ce rôle.
Le rôle n'est à mon sens pas rempli, puisque de toute manière, vous ne vous y tromperez pas, je suis à titre d'exemple le seul élu de tout le Grand Centre Corse. J'aurais pu ne pas l'être, et en ce sens-là, en mettant, on va dire, de côté sur la composition les territoires, on ne peut pas répondre aujourd'hui à la disparition des conseillers départementaux de la sorte. Et quelque part, ça met à mal, on va dire, les politiques publiques sur l'île.
Jérôme Necron, une conférence des maires, voulue par certains élus et créée par l'État, contre les territoires, initiée par la collectivité de Corse en réponse à l'État, et donc une chambre des territoires qui sera peut-être recomposée. Ça fait beaucoup, non ?
Ça fait beaucoup, mais on va dire que si...
Pour remplir un même rôle, finalement.
Pour remplir un même rôle, mais on va dire que si... Malheureusement, heureusement, l'actualité des dernières semaines et derniers mois a fait quelque part se rencontrer tout le monde et faire émerger un nouveau discours, une nouvelle volonté d'aller vers les territoires et d'aller vers les élus, notamment ceux de proximité que sont les maires, puisque c'est vrai que depuis des décennies, on a l'impression que les maires avaient un peu été écartés de toutes les politiques. Mais je dis que finalement, c'est une bonne chose et que peut-être d'ici quelques mois ou quelques années, de tout ça émanera quelques débuts de solutions.
Mais ces trois structures ont vocation à être pérennisées ?
À mon sens, oui, mais en tout cas réorganisées, en tout cas recentrées.
Quel regard portez-vous sur la conférence des maires ? Écoutez, qui a été initiée à Côte-Sade, on peut dire ça comme ça.
Qui a été initiée lors de la visite du président Macron. Je pense, à mon sens, qu'il n'y a pas de mauvaise chose. C'est vrai qu'il pourrait y avoir plus de communication autour. On a vu que le volet numéro 1 était consacré à l'urbanisme. Et c'est vrai que là aussi, on aimerait que ce soit, qu'on y aborde en tout cas les sujets du quotidien, pour nous élus du rural, qui nous touchent.
On va y venir. Mais avant, Jérôme Necron, vous êtes jeune, hein, vous avez une trentaine d'années, vous êtes engagé en politique depuis une dizaine d'années. En 2015, au territorial, vous étiez sur la liste de Paul Jacobi. En 2018, aux élections à la Chambre des territoires, vous conduisiez la liste Paes et Bio, sans étiquette, mais qui était soutenue par la majorité territoriale nationaliste. Où vous situez-vous aujourd'hui sur l'échiquier politique insulaire ?
Mais écoutez, il ne vous a pas échappé que Paul Jacobi, après les territoriales de 2015, avait décidé d'arrêter, on va dire, sa carrière politique sur l'île, en tout cas. Pour ce qui concerne Paes et Bio, c'est une démarche...
Paul Jacobi est un homme, mais son courant de pensée, la gauche, est toujours là.
Oui, avec...
Même amoindri, on peut le dire.
Fortement amoindri, on va dire, sans plus aucun parti politique, avec le PRG qui n'était plus affilié à Paul Jacobi depuis, on va dire, de nombreuses années. Après, pour revenir à la liste que j'ai eu l'honneur de conduire avec Paes et Bio, c'est une liste... C'est vrai, à forte tendance nationaliste, mais avec des gens issus de la gauche et de la droite également. Je vous laisserai le soin de dire qu'elle avait été soutenue ou non par la collectivité, en tout cas par la majorité nationaliste. Mais je pense que sur des élections de proximité, les maires ont démontré qu'ils avaient fait leur choix sans se soucier, on va dire, de la couleur politique de leurs représentants.
Mais aujourd'hui, vous vous sentez plus proche des nationalistes ou de ce qu'il reste de la gauche ?
Écoutez, moi j'ai...
À laquelle vous apparteniez ?
À laquelle j'appartenais. Je ne suis, comme vous l'avez dit, sans étiquette aujourd'hui. Je pense que la Corse a besoin de gens et de personnalités qui se battent pour le quotidien de leurs administrés, de leurs citoyens. Et peut-être que demain, c'est ce nouveau courant-là qu'il faudra faire émerger avec des gens qui soient à même de traiter les politiques publiques sur l'île, notamment dans le rural. Et de notre côté, bien sûr, on soutiendra et on soutient toutes les personnes qui se battent pour ces problématiques-là.
Il y a carence, selon vous, aujourd'hui, sur ces thèmes-là ?
Il y a beaucoup d'améliorations. Il y aura toujours carence parce que c'est vrai que il est très dur d'arriver à, après beaucoup de décennies, on va dire, de pertes dans beaucoup de domaines, de révision institutionnelle d'un côté et de l'autre, et qui fait qu'on a peut-être oublié depuis plusieurs décennies, et pas qu'aujourd'hui, les problématiques quotidiennes. Et je pense qu'il y a quand même une volonté majeure et très large qui ressort pour justement s'atteler enfin à toutes ces problématiques.
À ce propos, quel jugement portez-vous sur l'action de la majorité territoriale nationaliste depuis 2015 en faveur de l'intérieur, du moins du monde rural? On entend beaucoup que le comité de massif qui a été réactivé a ramené des dizaines de millions d'euros, mais est-ce que ça ruisselle? Est-ce que sur le terrain, vous voyez cet argent? Est-ce que ça va dans le bon sens?
J'ai pour habitude de dire qu'il faut laisser du temps au temps et du temps aux gens qui s'installent. La majorité nationaliste a été élue en décembre 2015, ce qui est quand même tout récent, on va dire, dans le politique.
Mais c'est sur point précis du développement de l'intérieur.
Alors oui, vous l'avez rappelé qu'il y a des outils qui ont été mis en place comme le comité de massif, avec visiblement...
Il a été réactivé.
Qui a été réactivé de manière concrète, avec des crédits qui ont été, on va dire, débloqués, qui ont été affectés, je pense notamment en ce qui nous concerne pour la réfection des réseaux électriques et l'enfouissement. Et je pense et j'espère en tout cas qu'on en verra rapidement les premiers résultats dans les mois à venir.
Mais aujourd'hui, concrètement, sur le terrain, rien n'a véritablement changé?
Mais écoutez, c'est difficile, on va dire, à cerner. Il y a de nouvelles méthodes, aussi avec, on va dire, la fusion des trois collectivités qui est passée par là. Et on attend de voir si réellement tous ces outils nouvellement mis en place vont porter le fruit. En tout cas, pour ce qui concerne les outils techniques administratifs mis en place par la collectivité au cours des derniers mois, on sent quand même une émergence un peu plus rapide, c'est vrai.
Là, on parle d'outils, mais qu'est-ce qu'il faudrait comme mesure pour sauver l'intérieur?
Alors, comme mesure pour sauver l'intérieur, je pense qu'il faudrait non pas un plan Marshall.
Ouais, c'est un vœu pieux, hein. Il faut accepter la mort de l'intérieur comme une fatalité, peut-être.
Non, justement, parce que je suis quelqu'un personnellement de défi qui lutte toujours contre la fatalité. Je pense concrètement qu'il faudrait un véritable plan, résorber d'ailleurs les soucis qu'il y a au niveau de l'eau et l'assainissement.
Un plan Marshall, mais on en est loin pour l'instant.
On en est très loin et peut-être traiter le problème de façon beaucoup plus macro, peut-être par vallée, avec les problématiques qu'on connaît, notamment au niveau des routes, de l'eau, de l'assainissement. Et surtout, je pense, les élus que nous sommes, sans parler de la collectivité, changer peut-être aussi un peu de fusil d'épaule et doter nos communes de services et non pas en tirer toujours quelque part bénéfice pour en faire des paysages de cartes postales. Parce qu'aujourd'hui, si l'intérieur dépérit aussi, c'est parce que les services y sont partis et que nous sommes tous peut-être aussi fautifs d'avoir privilégié beaucoup d'aspects plutôt que d'autres. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que là où les services publics...
L'aspect touristique, notamment?
L'aspect touristique, visuel, paysager, bien souvent.
Village dans Fleury, villages, chambre d'hôte, etc.
Les têtes dans les rues, les ruelles, les murs de soutènement. Alors qu'on voit, à titre personnel, en ayant créé des terrains multisports, demain une cantine scolaire avec un restaurant, et bien que petit à petit, la vie reprend. Alors, j'ai coutume de dire qu'on, malheureusement, les anciens ne reviendront jamais. Mais on remet de la vie, et c'est vrai que si, de l'autre côté, on est aidé par l'État, par la collectivité, dans chacun dans ses prérogatives et ses domaines, en faisant, nous, le travail de ce côté-là, et bien la vie reprend.
20 minutes, l'émission politique.
Jérôme Négron, on s'intéresse à présent à l'actualité de ces dernières semaines qui, je l'ai dit, a été marquée par de nombreux actes criminels sur fond de pression, de menaces. Écoutez à ce propos l'intervention de Sylvia Pinel, c'était hier à l'Assemblée nationale. Sylvia Pinel fait partie, comme les trois députés nationalistes, du groupe Liberté et Territoire.
Ces derniers mois, les tensions s'y font jour, menaçant des équilibres fragiles. Les citoyens de Lille ont, par leur vote en 2015, 2017 et fin 2018, fait des choix politiques forts qui doivent être entendus et respectés. La collectivité de Corse, dont le statut particulier lui confère des compétences accrues et adaptées, doit pouvoir les exercer pleinement. Aussi, j'en appelle solennellement au gouvernement pour lui demander de créer les conditions de l'apaisement, car il est urgent de renouer le dialogue entre l'État et la collectivité de Corse. Êtes-vous prêt à doter enfin ce territoire d'un statut semblable à celui des autres îles de la Méditerranée?
Jérôme Négron, un nouveau statut, c'est la solution à nos problèmes?
Écoutez, Personnellement, je ne pense pas qu'on puisse faire le parallèle d'un nouveau statut pour la Corse avec les problèmes qu'on a rencontrés récemment au niveau de la violence. On l'a vu notamment dans le Bozio, dans la Casaluna, et ailleurs aussi avec les problèmes, on va dire, d'occupation illégale des terrains, l'urbanisme, les paillotes.
Mais c'est des menaces sur les agents de la réserve de Scandale, un refuge qui brûle, sans parler de l'homicide de ce début de semaine.
De ce début de semaine, je ne pense pas que ce soit intimement lié à une nécessité de nouveau statut. Pour autant, je suis pour un nouveau statut de la Corse. Et quelque part, sans jeter la pierre à l'État, qui que ce soit, je pense que le problème aujourd'hui est toujours le même, c'est-à-dire de réunir tous les acteurs une bonne fois pour toutes et sans langue de bois.
Vous pensez que les Corses ont besoin d'un nouveau statut, veulent un nouveau statut? On vous en parle, à vous, le week-end, quand vous remontez à Saint-Laurens?
Bon, je vis à Saint-Laurens, premièrement, et puis je pense qu'au-delà d'un nouveau statut, ce qu'ont besoin les gens au quotidien, les gens du rural, c'est un signe fort, émanant de l'État, de nos élus locaux, au-delà du statut, un signe de confiance, quelque chose de fort.
Donc plus d'autonomie, une véritable autonomie, c'est-à-dire un véritable pouvoir normatif, le pouvoir de faire la loi?
Le pouvoir peut-être aussi de faire la loi dans certains domaines, et quelque part aussi que les élus locaux, qui connaissent le terrain mieux que quiconque, puissent retrouver, on va dire, tous les attributs qui étaient les leurs il y a encore quelques décennies.
En attendant, les mêmes problèmes perdurent. Je pense notamment au dossier des déchets. Dès que le nom d'un site est avancé pour accueillir les déchets, les stocker, un collectif qui est opposé se crée dans la foulée. C'est le cas près de chez vous, à Moltifa. Comment s'en sortir? Vous avez une solution? Voir un site à proposer? On ne sait jamais.
Un site, non, je ne pense pas. En tout cas, une solution. J'avais préconisé, moi, dans les réunions qu'on avait eues en interne, notamment avec notre intercommunalité, que peut-être le problème soit justement traité par intercommunalité, c'est-à-dire par micro-région, que chaque micro-région traite ses déchets. Et je pense qu'en passant par cette alternative-là...
C'est ce qui avait été décidé lors de la dernière grand-messe. Hein. On travaille par intercommunalité, on fait des propositions, mais on s'aperçoit que les seules propositions sont tout de suite contestées.
Balayées, tout à fait, mais peut-être qu'il faudra aller en...
Je parle de Moltifa, mais on peut parler aussi d'Ajaccio. Hein.
D'Ajaccio, et je pense que là aussi, je parlais tout à l'heure de signes forts et de signaux. Je pense que les signaux devraient venir des deux grandes communautés urbaines que sont Bastia et Ajaccio, pour donner le signal, parce que on peut comprendre aujourd'hui que, encore une fois, l'intérieur ne puisse recevoir, on va dire, les déchets de toute la Corse, ou en tout cas donner le signal. Je pense que le signe fort devrait venir des deux communautés urbaines pour qu'on puisse après décliner toute cette politique aussi dans les autres micro-régions de l'île et notamment de l'intérieur.
Mais pour l'instant, on ne voit rien venir, ni de Bastia, ni d'Ajaccio, ni de l'intérieur d'ailleurs.
Ni de l'intérieur du reste, et c'est vrai que c'est un débat qui est sur la table depuis des décennies, et qu'on a beaucoup de mal encore à traiter.
De votre village de San Lorenzo, quel regard portez-vous sur la polémique qui se développe autour des paillotes, sur l'occupation du domaine public maritime, surtout dans l'extrême sud, où les paillotistes ont ce week-end, enfin du moins le week-end dernier, reçu le soutien des agriculteurs? Vous êtes loin de tout ça?
Loin de tout ça, oui et non, parce qu'on peut toujours y faire un parallèle avec la terre, notre terre qui est sacrée, et avec justement les agriculteurs qui sont venus en soutien à ces paillotistes-là, même si je ne connais pas spécialement cette région. Là aussi, le débat est posé. Il y a le PADUC qui mérite d'être vu. Il y a beaucoup de lois, la loi Elan, la loi Nôtre, la loi Allure, les cartes communales, beaucoup d'outils qui sont proposés aux maires, qui sont un peu dans la nébuleuse. Et je crois qu'à un moment donné, il faudrait là aussi se réunir avec tous les acteurs pour pouvoir en faire quelque part l'adjournement de tout ça et pouvoir repartir d'une feuille blanche pour que, on va dire, l'avenir soit un peu plus heureuse pour tout le monde.
Soit, mais pour vous, ça ne vous choque pas de voir des paillotistes à côté d'agriculteurs pour un même combat, l'occupation du domaine public maritime?
Écoutez, bien souvent, ce sont des familles qui occupaient ce domaine maritime, et bien souvent depuis des décennies. Alors c'est vrai que siffler la fin du match, quasiment d'une année à l'autre, ça peut poser des difficultés, et je crois que là aussi, tous les acteurs aurait bien à faire d'éviter de se rejeter la balle et de se discuter, parce que de la discussion jaillit toujours la lumière. Et je pense que même dans ce domaine qui est très difficile à mener, il y a toujours une solution à trouver.
L'agriculture, c'est, L'agriculture, c'est important pour la Corse, pour son avenir. Actuellement, se renégocie la PAC, la politique agricole commune. Il faut continuer à aider les agriculteurs. Selon vous, c'est vital, notamment pour l'intérieur, même s'ils sont fortement subventionnés, voire sous perfusion.
Les agriculteurs sont fortement subventionnés, sont beaucoup décriés également. Mais pour autant, pour l'intérieur de l'île, aujourd'hui, sans agriculteurs, il n'y a plus d'intérieur. Ce sont eux qui font vivre nos écoles en grande partie, nos villages. Et je pense qu'il faut continuer de les soutenir. Mais, je nuance, bien entendu, en soutenant peut-être même de manière plus forte ceux qui produisent.
On arrive au terme de cette émission. Jérôme Négrogne, une dernière question plus personnelle. Vous avez à peine 30 ans, mais vous êtes maire depuis l'âge de 20 ans, me semble-t-il. À l'époque, vous étiez d'ailleurs le plus jeune maire de France. Qu'est-ce qui vous motive être maire d'un petit village comme Saint-Laurens?
Ben écoutez, je crois avant tout que c'est le défi permanent, le défi quotidien de lutter, on va dire contre le déni permanent, parfois même l'interdit.
L'adversité,
la renonciation permanente des gens, des élus, de dire que le combat du rural est perdu. Et c'est quelque part toutes ces journées, ces réalisations faites, ces victoires quotidiennes qui mènent.
Vous avez l'impression parfois d'être un peu le dernier des Mohicans?
Parfois c'est vrai, parce que c'est vrai aussi que dans nos rangs, il y a beaucoup de renonciations, de gens qui renoncent, qui n'y croient plus, alors que je pense qu'il y a tant à faire, le chantier est tellement béant que la Corse a besoin, on va dire, de beaucoup de volonté sur ce côté-là.
Eh bien, ce sera là le mot de la fin, Jérôme Négrogne, et merci d'avoir été notre invité.
Merci à vous, à Abanazer.
RCFM, Bintiminoudi, l'émission politique.
Bintiminoudi avec Jérôme Négrogne, c'est terminé. Une émission écoutée ou réécoutée sur bleu-rcfm.fr. La semaine prochaine, même heure, à cette même place, Jean-Charles Orsucci, à suivre, Davia Bourgeois.